Torahbox.com vous présente un cours de Halakha dans la section Pensée juive.
On a le mari qui est par exemple Ashkenaz et la femme Sepharad, ou alors le contraire. Le problème, comme on l'a beaucoup évoqué dans les cours sur Halakha Time, c'est qu'il y a souvent des machloquettes, des controverses entre Ashkenaz et Sepharad. Donc si vous avez le mari qui est Ashkenaz et la femme qui est Sepharad, ou le contraire, que faire lorsqu'on va se retrouver en fait devant une controverse entre Ashkenaz et Sepharad? Alors, les premiers décisionnaires nous parlent du dîn du guer. Le guer, le converti, qui s'est converti, on va dire, par exemple, en France. Alors, les premiers décisionnaires nous disent qu'il faudra qu'il prenne les rites, les coutumes ilchatiques de France. Il suit le grand rabbin de France. Mais si, après cela, il va déménager, il va partir, par exemple, en Eretz Israël, il va s'installer en Eretz Israël, alors, en fait, comme il a changé de domaine et qu'il rentre dans un nouveau domaine où les coutumes de la halakha ne sont pas les mêmes, il adoptera les coutumes ilchatiques de Eretz Israël et il abandonnera les coutumes ilchatiques de France. Le Rav Avadia Yosef fait en fait un parallèle entre une femme qui se marie et un guer, un converti, qui va changer de domaine. Car de la même façon que le guer, le converti, lorsqu'il change de domaine, eh bien en fait il va prendre les coutumes de halakha du domaine dans lequel il se trouve. Pareil pour la femme, lorsqu'elle va en fait se marier, elle va sortir du domaine de ses parents et rentrer dans le domaine de son mari. C'est le Rashbatz qui dit ça, il fait partie des grands premiers décisionnaires. Et donc la conclusion, c'est que la femme va suivre le rite de son mari. Alors, pour prendre des exemples un petit peu concrets, si par exemple vous avez une femme qui est Ashkenazia, qui va se marier avec un séfarade, dès lors il faudra qu'elle prenne les rigueurs séfarades et aussi les permissions séfarades. Par exemple, la rigueur séfarade, c'est qu'elle devra manger de la viande halak bet Yosef. Alors ici, on a effectivement une controverse en ce qui concerne la cacheroute de la viande, par rapport au poumon, c'est qu'en fait, nous, séfaradim, on est marmir, on est rigoureux, que le poumon soit complètement lisse. C'est ce que ça veut dire. Halak bet Yosef, halak, ça veut dire lisse. Bet Yosef, en fait, c'est l'avis de Rabbi Yosef Karo qui tranche que si le poumon n'est pas complètement lisse, c'est pas valable. Parce que si vous avez une petite boule, en fait, dans le poumon, ça prouve qu'il y avait un orifice, un trou dans le poumon et que même si ce trou s'est refermé, on va considérer cette bête comme une nevela. Alors que pour nos frères ashkenazim, ce sera valable dans la mesure où le trou s'est refermé. Si le trou était béant et qu'il ne s'était pas refermé, alors là, d'après tous les avis, la bête n'était pas cachère. Donc cette femme qui est ashkenazie et qui s'est mariée avec un séfarade, dès lors qu'elle se marie avec son mari séfarade, elle devra manger de la viande halak bet Yosef. D'un autre côté, lorsqu'arrivera Pessah, elle pourra manger du riz. Malgré que les ashkenazim sont marmir sur cela, les sfaradim sont mekel, la plupart des sfaradim permettent le riz pendant Pessah, donc elle pourra manger du riz pendant Pessah. Alors, la réciproque est juste, c'est-à-dire le cas sera à peu près le même lorsqu'on va avoir une femme sfaradia qui va se marier avec un ashkenaz, mais alors, attention, il y aura quand même une exception à la règle. C'est lorsque le couple va vivre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch et du Bet Yosef, qui est en fait le grand rave des séfaradim, et le marais de Hatra de Eretz Israël. C'est-à-dire, en fait, c'est le Rav de Eretz Israël. Donc, on a ici un paramètre qui rentre en ligne de compte. C'est que d'un côté, cette femme qui est Sfaradia est rentrée, c'est vrai, dans le domaine de son mari qui est Ashkenaz. Mais d'un autre côté, elle vit en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est le domaine de Rabbi Yosef Karo. Alors, en ce qui concerne le mari qui est, lui, Ashkenaz, il n'y a pas de problème. Il peut continuer à faire l'alakha comme les Ashkenazim. Parce qu'en fait, c'est ces alakhot, il le tient de ses parents de façon de génération en génération ancestrale. Donc, ce n'est pas parce qu'il est venu maintenant en Eretz Israël qu'il va falloir déraciner cela. Par contre, la femme qui, elle, à la base, était Sfaradia, elle ne pourra pas déraciner tout au moins les rigueurs de la halakha séfaradite, vu que maintenant, bien qu'elle s'est mariée avec un Ashkenaz, c'est vrai, mais elle vit quand même en Eretz Israël. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on a pris, elle devra continuer à manger halak bet Yosef, bien qu'elle est mariée avec un Ashkenaz. Alors, le mieux, ce sera d'amener à la maison de la viande halak bet Yosef. C'est pas, pour le schlambait, c'est pas terrible que le mari, d'un côté, il mange sa viande qui est pas halak bet Yosef, et la femme devra manger sa viande qui est halak bet Yosef. C'est pas très très bien. Donc, pour le schlambait, c'est bien, ce sera le mieux à faire d'être marmir à la maison, d'être rigoureux sur cela. Alors, en ce qui concerne maintenant les coulottes, c'est-à-dire les permissions, par exemple, le fait de manger du riz, elle devra bien entendu, à ce niveau-là, respecter son mari et pas cuisiner du riz à la maison pendant Pessah. Par contre, si elle va manger, par exemple, chez ses parents, alors là, oui, elle pourra manger du riz pour la raison qu'on a évoquée, parce qu'en fait, on se trouve dans le Hatra, dans le domaine de Rabbi Yosef Karo, qui a permis la consommation des kitniot pendant Pessah et aussi le riz. Voilà, Baruch HaShem, on a fait à peu près le tour de la question. Kol Tov et à très bientôt.